C'était beau. Georges Larac, Kiro. Kiro à la pause avec Oli Bratt. Olivier, comment ça va?
Ça va bien. Georges Larac qui fait avec les chaises ce que Dak Prescott fait avec des maisons.
À peu près.
Hey, on s'entend qu'un corps arrière de la NFL, là, de ce que je comprends, ça achète pas une maison patrimoine.
Non.
Ça vient avec des contraintes qui...
différentes de celles qu'un corps arrière au Texas a.
Hey, 60 millions par année qu'il fait.
Ouais. Ben, il célèbre son nouveau contrat avec ça.
Ouais.
C'est du chéri, c'est-tu quoi? Hey, belle la maison.
On va acheter la pépine.
Ouais, on sent que ça à terre.
Non, ils célèbrent parce qu'ils ont battu les Steelers.
Aussi. Hein? Comment ça va, Ali, pour vrai, là?
Ça va super bien.
T'as un beau hoodie.
Ben oui, merci, Rose FC. Hey, d'ailleurs, je vous pose la question parce que j'ai pas tout à fait la réponse. On dit les Rose FC ou le Rose FC?
Je me posais la question et j'allais la poser.
C'est le nom d'une équipe. Fait que le Rose FC.
Ouais, mais il y a un S. Est-ce que c'est les Roses?
Ben,
mais peu importe, les deux fonctionnent. Là. Ah oui? Ben, le CF Montréal, il y a un paquet de manières de les...
Ouais, mais
les
on dit pas les CF Montréal.
Ouais, c'est pour ça que je dis le Rose FC.
Non, mais tu sais, ça peut être Montréal, le CF Montréal, le CF. Oh, ouais, je veux dire, ça a pris plein de dérivations. Bref.
Mais il y a un S à la fin de Rose, donc c'est au pluriel, je comprends.
Et c'est le hoodie que je porte en ce moment parce que j'étais au lancement mardi. Mais honnêtement, là, tu sais, toi qui es un fan de Guenilles quand même, Gonzo...
c'est correct.
Non, mais capable d'apprécier le swag. Pas comme Georges qui achète 4 t-shirts de la même couleur, un peu comme moi d'ailleurs. Georges et moi, si on allait magasiner, je pense que ça se ferait de manière extrêmement expéditive. Ce t-shirt-là fonctionne, tu l'as dans combien de couleurs? On ramasse ça.
J'ai 8 garde-robes chez nous.
Oui, mais je veux dire, Georges est dangereux en voyage.
J'ai pas mal de garde-robes, par exemple.
Ouais, moi, tu m'as raconté une ou deux histoires de magasinage. Pas certain qu'il faut creuser davantage avec ça. Mais tout ça pour dire que la merch de ce club-là, qui n'a pas encore de maillot, là, ça va être dévoilé dans les prochains mois, c'est vraiment réussi.
Est-ce que tu es surpris du nombre de personnes qui sont déplacées pour l'événement? Parce qu'on parle quand même du soccer féminin.
Pas juste du nombre de personnes, mais de l'éventail de gens qui sont allés là. C'était des gens d'un paquet d'horizons. D'abord, tu sais, je viens d'enregistrer le prochain Au fond des filets que j'ai fait avec Amy Walsh, qui est consultante avec le Rose FC et qui a joué 102 fois en équipe nationale. T'sais, elle a une grosse expérience. Puis je lui demandais, as-tu été surprise de voir? Elle savait qui était sur la liste d'invités, qui avait répondu, mais après, vous le savez, des événements comme ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire bon, finalement, j'ai quelque chose d'autre ou c'est pas assez important, j'avais dit ça pour la forme. Ouais. De voir tu sais, la victoire de Montréal était là, la ministre qui se pointe, ça je comprends, les investisseurs qui étaient là, le coach de l'équipe nationale, Jesse Marsh, tu sais, t'as des gars comme Étienne Boulay, ils ont réussi, puis je sais pas c'est comment. Initialement dans leur positionnement qui ont été capables de rendre ça intéressant. C'est peut-être juste le projet d'une équipe de sport féminin à Montréal qui a parlé à ces gens-là, mais l'endroit déjà, c'était incroyable. Le look, le feel de cette présentation-là, et je suis désolé, ça va toujours, surtout au soccer, ça va toujours être une comparaison avec le rebrand du CF Montréal. C'était complètement différent. À tous les points de vue. Dans le discours, il n'y avait pas de confrontation. C'était beaucoup plus coloré aussi. Honnêtement, là, c'est réussi sur toute la ligne. Et en voyant l'éventail de gens qui ont été interpellés par cet événement-là, j'ai vraiment hâte de voir les partenaires stratégiques, les porte-paroles, on déteste le mot là, parce que ça fait faire des boutons à bien des gens, mais les influenceurs qui vont avoir leur rôle à jouer dans les prochains mois, les prochaines années, parce que ça a mobilisé bien du monde.
Est-ce que ça se peut qu'on ait fait nos devoirs et qu'on ait fait du travail? Je dis pas qu'il y en a d'autres qui ne le font pas, mais on l'a peut-être fait stratégiquement, comme un certain sage m'a déjà dit, marketing big.
Ah ben, je suis... c'est en regardant un gars d'un boys vendre des wings ou en écoutant Georges. Ben, oui, mais tu sais encore, le marketing, tu peux en faire, mais... Si tu as l'impression, quand tu le reçois, que c'est faux cul...
La réponse a été bonne,
ou
c'est
que c'est plaqué, tu vas pas réagir de la même manière. Là, tout le monde s'est senti authentiquement interpellé, puis ça te met tellement bien la table pour la suite.
Là, parle-nous de l'équipe canadienne qui est en ville s'entraîner, puis qu'est-ce que ça représente pour la ville de Montréal, big?
Bien, déjà, ça montre que le programme canadien pense au Québec. Il y a quelques années, là, souvenez-vous, on disait ah, s'il y avait un match de l'équipe nationale à Montréal, est-ce que ce serait plein? Parce qu'on se souvient de, je pense que c'était 2012, peut-être 2013, il y avait eu un match Canada-Honduras au Stade Saputo. Il y avait plus de maillots du Honduras que du Canada pour la rencontre. On est complètement ailleurs. Un, parce que le Canada a eu des résultats qui sont allés chercher bien des fans de même pas de soccer, de sport partout au pays et ici au Québec. Puis là, t'as des Québécois qui jouent.
Ben oui.
T'sais, t'en as six, je pense, dans le rassemblement actuel, avec un coach qui a entraîné ici dans le passé. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que un Jonathan David, un Alfonso, t'sais, je nomme les gros, là, mais des gars comme ça, quand ils passent à Montréal, comme Chelsea l'a fait au Centre Nutrilait, comme le Real Madrid avec Zidane l'a fait deux fois au Centre Nutrilait, ils viennent faire un tour au Stade Saputo pour un entraînement ouvert au public où tu as plus de 1000 personnes qui se déplacent par une fraîche soirée du mois d'octobre, tu te dis, attends, il y a quelque chose qui se passe ici. Ça, c'est bon pour accueillir un match à court, moyen terme à Montréal, mais c'est aussi pour le CF Montréal une carte de visite extraordinaire. Si tu vois les installations puis tu te dis, attends, c'est cool ici, je serais bien pour travailler. Le jour où tu vas aller recruter, démarcher des gars de l'équipe nationale, essayer de leur offrir un contrat puis de les amener ici en ville, ben ils ont vécu quelque chose puis leur feeling était bon. Ça, je pense que c'est un gros, gros plus pour une ville qui n'existait pas, je suis désolé, pour le reste du Canada. Puis le soccer au Canada, ben même pas, là, il y a 5-6 ans.
C'est vrai. Tu l'as nommé Alfonso Davies qui signe des autographes à Laval.
Hey, ça, d'abord, Canada Soccer, là, vous parlez de MRKE, Ting-Ting. Le Canada a été une catastrophe en termes de com et de marketing pendant beaucoup trop longtemps. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire ici, parce qu'ils s'entraînent à Montréal pour la semaine, mais ils ont envoyé Mathieu Chouanière est de retour.
Oui.
T'es allé faire un tour Celtics du Haut-Richelieu, son club formateur. T'en as d'autres qui sont allés à NDG. Je pense que Joel Waterman faisait partie. Là, c'est hier ou avant-hier, c'est Alfonso Davies qui était à Laval. Imagine les souvenirs. C'est Alfonso Davies, c'est un gars là, qui, il y a quelques mois, s'en allait peut-être au Real Madrid. Puis là, toi, t'es un gagnant de la Ligue des champions, champion d'Allemagne à plusieurs reprises. Puis là, t'es un kid à Laval ou à Boisbriand, Sainte-Thérèse. Tu viens faire un tour, puis tu dis, moi, je l'ai dans ma cour.
Lui, il est là.
Puis il est pas juste dans ma TV, il est en avant de moi, disponible. Puis de ce que je comprends, les joueurs ont joué le jeu. Là. C'était pas, tu sais, à l'époque, pour ceux qui ont vu le documentaire de Vince McMahon, t'en as qui allaient à reculons pour des séances d'autographes. Ça peut arriver aussi avec des joueurs. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. C'est des gars qui jouaient. Tu sais, Jacob Schaffelberg, qui a une Copa América extraordinaire, qui est là, qui joue avec l'équipe sur le terrain, qui s'entraîne avec eux. Les petits que ça peut faire dans la tête des kids qui vivent ça en ce moment, bravo, bravo, bravo. Parce que
c'est de l'art, ça.
Ben, incroyable. Puis j'ai très, très hâte. Il va en avoir un jour. Il va avoir un kid, que ce soit un garçon ou une fille de 7, 8 ans, 7 semaines, qui va se retrouver en équipe nationale dans 10 ou 15 ans. On va être capable de ressortir les
photos
de ce moment-là.
Ouais.
Ça va être extraordinaire.
Là, si on parle du CF Ali, gros match 19 octobre, mais Nathan Saliba qui est suspendu à raison de carton.
Y a-t-il été naturalisé américain, Nathan Saliba? Ou...
Nathan Saliba, t'es-tu content? T'es-tu content?
Ils l'ont l'affaire, hey, les hommes américains.
George LaRock.
Mais dû au carton, est-ce que tu penses que, vu qu'il est tellement important pour l'équipe, est-ce que son absence va faire mal ou tu penses que dû aux deux semaines de congé, on va être capable de combler son absence avec un autre joueur?
Tu pourrais avoir un mois et demi de congé. Tu vas pas combler l'absence de Nathan Saliba. Il va falloir que tu bouges des trous ailleurs. Mais ça te montre-tu à quel point ce kid-là, qui en est à sa deuxième année pro seulement, est bon?
Puis rendu important pour le club.
Au point où tu dis... D'abord, moi, j'ai un coup de gueule, là, puis j'en ai rarement où je fais du Monday Night Quarterback ou coaching ou bref, que tu remets en question des décisions prises par les entraîneurs. Mais Nathan Saliba allait être suspendu s'il prenait un carton jaune le week-end dernier à Charlotte. Pour moi, sachant qu'il y a tendance à prendre des cartons jaunes qui ne sont pas nécessaires. Plus tôt cette année à Seattle, il s'est pris un carton jaune en première mi-temps. Mon feeling, c'était « laisse-le pas sortir en deuxième mi-temps, sors-le ». Il en a pris un autre. Il avait été expulsé, suspendu pour le match d'après. Tous les facteurs étaient là, réunis pour qu'il prenne un carton jaune et qu'il soit suspendu. Non seulement il a joué, mais t'as sorti Samuel Piette qui, pour moi, était meilleur que Nathan Saliba, qui pompait l'huile dans ce match-là. C'est pas de sa faute, il a été beaucoup, beaucoup utilisé, puis c'est un gars de 20 ans. Mais t'as décidé de sortir Piette. 3 minutes plus tard, Nathan Saliba, carton jaune, suspendu. Pour moi, ça, c'était une erreur. Après, comment tu la répares? Est-ce que tu ramènes Bryce Duke, qui est un milieu offensif, que t'as fait jouer au milieu de terrain cette année, mais pour moi, c'est un poids-plume dans un match où ça va être une bataille de tranchées. Il va falloir que tu sois vraiment costaud. Est-ce que tu montes Joel Waterman, qui est ton défenseur, qui est ton général en défense centrale, au milieu de terrain? Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Hey, mais c'est-tu un pari? Tu fais ça pour la première fois de la saison. Tu dis, hey Joel, t'es notre milieu de terrain à côté de Samuel Piette. Puis je pense que ça peut fonctionner. Mais la perte de Nathan Saliba, c'est vraiment, vraiment lourd. Puis c'est pas juste parce que nous, ici, on trouve comme Québécois que le Québécois Nathan Saliba est bon avec le CF Montréal. La liste des 22 meilleurs joueurs de moins de 22 ans de la MLS est sortie là, au cours des derniers jours. Saliba est 14e à travers la Ligue au grand complet. C'est pour ça quand je vous dis que je serais très surpris, je serais absolument pas surpris si en juillet l'année prochaine, Saliba était vendu. Peut-être qu'il finira la saison comme Georgi Mihailovic l'avait fait et partira à l'hiver 2025-2026. Mais Saliba, sa présence dans l'équipe, son importance dans cette équipe-là, est exceptionnel, puis ça montre le talent qu'il y a.
T'écoutes parler, puis si tout le monde avait joué son rôle, finalement, Wanyama aurait joué, puis on aurait eu besoin de lui.
Non, mais attends, t'as tout à fait raison. Puis le week-end dernier, quand Sunusi Ibrahim arrive, là, il n'a pas joué depuis le mois d'août, il a joué 30-quelques minutes depuis le mois de juillet. Victor Wanyama, c'est là que t'en as besoin, mais tu ne l'as pas préparé, ça.
Ben
cette équipe-là a trouvé son 11 de départ, plus 2 ou 3 gars. Mais cette équipe-là n'a pas de profondeur en ce moment. Donc là, tu touches du bois, tu finis la job face à NYCFC. La bonne nouvelle, c'est que tu joues à domicile le 19 octobre, qui est le dernier match de la saison où tout le monde joue en même temps. Tu vas chercher un match nul, tu es garanti qualifié pour le match de barrage. Mais est-ce que si c'était à refaire, tu essaierais de garder Victor Wanyama engagé, tourner un peu plus?
Il doit capoter. Le monde y parle-tu?
Ben, il doit capoter.
Allez,
ça fait longtemps qu'il a décidé. Écoute, c'est Air Miles grimpe pas mal moins vite qu'à moins qu'il parte en vacances lui-même.
De son côté? Ça serait-tu quelque chose?
Pendant ses fêtes. Bon, mais en même temps, il va jamais être utilisé, là.
Non.
Ben, à moins qu'on fasse.
Non, mais là, c'est à la maison.
On l'a déjà vu, là, en 2013, l'Impact avait joué un match de série le soir de l'Halloween. Nelson Rivas avait commencé le match. Il n'avait pas joué depuis 13 mois. Il n'avait pas joué de l'année. Le premier match qu'il a joué de MLS cette année-là, c'était le match de série, le premier de l'histoire en MLS de l'Impact de Montréal. J'étais là sur place avec Fred Lard, d'ailleurs. On travaillait à TVA Sport ensemble, mais le match était à RDS. Beaucoup de médias avaient fait le voyage avec le charter de l'équipe. Puis on avait parlé avec le play-by-play à la radio, si je ne me trompe pas, du Dynamo de Houston, parce que c'était là-bas. Puis il vient nous voir, puis il dit...
C'est qui, lui?
Nelson Rivas is playing? Really? Puis j'ai toujours me rappeler. J'ai dit, là, lui, c'est tout ou rien. Il marque le but vainqueur ou il se fait expulser. C'est les deux seules options. Il dit, OK, I'm going to use that. Il en parle au début du match. Nelson Rivas s'est fait expulser dans cette rencontre-là. Le gars est venu nous voir après et dit « Merci, on a quand même eu l'air de génie. » Bref, tout ça pour dire, on serait pas à une surprise près avec le CF Montréal, mais moi, je vois pas Victor Wanyama contribuer, puis malheureusement, en ce moment, t'en aurais besoin. Mais je comprends Laurent Courtois à ce stade-ci de dire « Il pourra pas avancer si tu le fais commencer un match. » Malheureusement.
On a bien hâte, en tout cas, la semaine prochaine. On a bien hâte. T'as-tu un algorithme, toi aussi, comme
Non, ça, Fred, je laisse ça à Fred. Là, les calculatrices, là, moi, le Texas Instruments, c'est pas pour moi.
Okay. Comment t'as vu les chances?
Ouais.
Non, très bonne. Très bonne quand même.
Mais parce tu mets pas de chiffres.
Sur 100.
Tu mets pas de chiffres?
Sur 100.
Ah, je te dirais 75%. Parce que, tu sais, je me garde quand même une gêne. NYCFC s'en vient. Si NYCFC avait pas la possibilité de terminer dans le top 4, qui fait que t'accueilles 2 des 3 matchs de la première ronde, parce que c'est des 2 de 3... Je te dirais 80-85, parce que je pense qu'il serait venu en levant le pied un peu. Là, tu vas quand même avoir un adversaire, mais tu vas faire jouer. Joseph Martinez va manger la tourbe du Stade Saputo. Je pense que l'absence de Nathan Saliba, ça va te faire mal, mais je pense que tout le monde est conscient que ça peut te faire vraiment mal et tout le monde va devoir redoubler d'ardeur, exactement. Là, tout ce que tu veux, c'est que personne ne se blesse à l'entraînement, personne ne se blesse en équipe nationale pour les Sirois, Waterman, Saliba. Ben, pas que ce serait pas grave s'il se blessait, là, mais il jouera pas cette rencontre-là. Mais tu gardes tout le monde en santé, puis moi, je vois le CF Montréal se rendre en série.
Bon, Oli, c'est sorti du four pour le prochain épisode.
Oui, Amy Walsh, à qui j'ai parlé là, il y a quelques minutes ici dans nos studios, tellement intéressant. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui a vécu 102 sélections en équipe nationale, mais qui a été obligé essentiellement de prendre sa retraite parce qu'elle a eu à choisir entre est-ce que je fonde une famille puis j'ai un enfant ou je continue à faire les deux, qui n'était pas une possibilité. Tu as vécu cette ère-là du soccer féminin au pays, puis là, tu es impliqué dans un projet comme celui du Rose FC. T'sais, c'est un rêve éveillé là, pour quelqu'un comme Amy qui a un paquet d'anecdotes super intéressantes. Donc, ça va être publié un peu plus tard sur les plateformes de la Commission athlétique.
Merci beaucoup, Olé. Toujours un plaisir, Olé.
Salut. Touche pas ma chaise.